les podcasts de Radio Vatican.
Une nouvelle page se tourne dans l'histoire politique du Zimbabwe après le départ de Robert Mugabe le 21 novembre. Le vieux leader, héros de la lutte pour l'indépendance de son pays, aura fini par jeter l'éponge sous la pression des militaires après avoir régné sur son pays pendant 37 ans. Ce mercredi, l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa, qui doit présider la transition politique dans le pays, est rentré à Harare, la capitale, après avoir passé 2 semaines d'exil en Afrique du Sud. Si Mnangagwa porte sur ses épaules de nombreux espoirs, certains ne cachent pas leur crainte d'une continuité du régime. Le crocodile, comme il est surnommé, a en effet occupé plusieurs postes ministériels dès les premières années du règne Mugabe. Il était notamment le chef de la sécurité nationale en 1983, quand les forces armées ont mené une campagne meurtrière de répression dans les provinces dissidentes du Matabeleland à l'ouest et des Midlands au centre du pays, des massacres qui auraient fait 20 000 morts. Un chapitre douloureux se referme donc pour de nombreux Zimbabwéens, alors qu'il avait commencé en 1980 avec de nombreuses promesses, comme nous le rappelle le journaliste Pierre Aski, chroniqueur international à l'Obs.
Voilà un homme qui, en 1980, lorsqu'il a été élu, qu'il a gagné les premières élections libres de ce pays nouvellement indépendant, était un héros, était en plus l'homme qui avait tendu la main à ses ennemis d'hier. Parce que ce qui était remarquable en 1980, c'est que le pays sortait d'une guerre absolument terrible, la guerre d'indépendance, que Mugabe était considéré comme le plus radical des dirigeants nationalistes. Il sort vainqueur des urnes et tout le monde était terrorisé parmi ses ennemis. Et il nomme au ministère de l'Agriculture Dennis Norman, qui était le président des fermiers blancs, c'est-à-dire les gens contre lesquels il s'était battu pendant toutes ces années. Donc il y avait un symbole de réconciliation en 1980 qui était formidable. Et puis ça a tourné mal très vite, puisque dès 1982, au bout de 2 ans, il a enfermé en prison Joshua Nkomo, qui était donc son rival, mais qu'il avait nommé numéro 2. Il a envoyé l'armée dans la région de Nkomo, le fief de Nkomo, dans le Matabeleland, dans le sud-ouest du pays. Il y a eu 20 000 morts. Ça a été une répression absolument terrible. Et donc la paranoïa s'est emparée de cet homme. Et la question, c'est presque une question existentielle, c'est est-ce que c'est le pouvoir qui a transformé cet homme en tyran, ou est-ce qu'il avait ça en lui? Est-ce qu'il avait caché son jeu au début? Bref, il y a eu 37 ans de règne qui ont été un vrai cauchemar pour les Zimbabwéens. Il faut se souvenir à la fois de cette répression politique et militaire, de la catastrophe économique. Souvenez-vous qu'en 2007, l'inflation au Zimbabwe était de 21 000 %. Donc on a un pays qui a eu une longue dérive sous l'emprise d'un homme qui a mis en place un système de contrôle et d'oppression et qui aujourd'hui est parti. Et on peut comprendre et vraiment très facilement saisir la joie de gens, en particulier des plus jeunes, qui n'ont connu que lui.
Une autre scène assez frappante quand même, c'est que, bon, on a vu la joie des Zimbabwéens hier, on a vu aussi la joie de tous les cadres de la ZANU-PF, qui, il y a encore quelques années, évidemment soutenaient le chef. On a vu ses députés sauter de joie dans le Parlement après l'annonce de la lettre de démission. Ça aussi, c'est une scène très étonnante, c'est-à-dire que c'est vraiment la chape de peur qui s'est envolée du pays.
Je pense que beaucoup de gens du parti au pouvoir étaient un peu écœurés par la manière dont tout se passait au sommet de l'État, et en particulier l'emprise qu'avait désormais Grace, l'épouse de Robert Mugabe, sur le président vieillissant qui a 93 ans, donc qui s'endormait dès qu'il était assis en public quelque part. Et donc cette décadence ou déchéance du pouvoir rendait tristes et furieux tous les dirigeants du parti, tous les cadres du parti, et en particulier le groupe le plus influent au Zimbabwe, que sont les vétérans de la guerre de libération, les anciens combattants, et qui voyaient très mal le pouvoir progressivement passer vers cette usurpatrice à leurs yeux, qui était l'épouse du président. Et le coup de grâce est venu lorsqu'il a limogé son vice-président, Emmerson Mnangagwa, qui est un homme qui a fait tout le parcours de sa vie aux côtés de Mugabe.
Justement, alors Emmerson Mnangagwa, alias le crocodile, est pressenti évidemment pour prendre les rênes du pays dans la période de transition qui s'ouvre aujourd'hui. Il n'y a pas d'alternative. On a l'impression que justement, on oublie aussi que Mnangagwa a été quelqu'un d'extrêmement dur, qui a présidé notamment la répression du Pemdebele, des massacres. Donc c'est loin d'être un enfant de cœur. Aujourd'hui, on a l'impression que la seule alternative, c'est quand même d'une certaine manière une perpétuation du système.
C'est vrai, d'autant plus que tout l'enjeu dans cette transition a été de respecter des formes. Vous vous souvenez qu'au début, l'armée disait « ce n'est pas un coup d'État, on n'est pas du tout en train de faire un coup d'État ». On a même sorti Mugabe un jour, alors que les chars étaient dans la rue, pour présider à une remise de diplôme à l'université. Donc il y a eu une sorte de formalisme de cette transition. Et Emmerson Mnangagwa est l'homme qui doit diriger la transition en termes tout à fait constitutionnels. Et l'idée étant qu'il dirigera le pays jusqu'à l'échéance des prochaines élections, c'est-à-dire en 2018. Toute la question, c'est de savoir si ces élections seront véritablement libres, si Emmerson Mnangagwa sera l'homme de la démocratisation ou l'homme de la perpétuation du régime. Et d'une certaine manière, c'est entre ses mains que repose aujourd'hui ce choix. Parce que tout est en place pour la perpétuation du régime. L'armée, les anciens combattants, le parti, tout le monde est autour d'Emerson Mnangagwa, qui ne sera pas véritablement contesté, en tout cas au début, s'il continue le pouvoir tel qu'il a opéré depuis 37 ans. En revanche, il décevra énormément les attentes des gens qui exprimaient leur joie dans la rue et qui attendent autre chose. Est-ce que Emmerson Mnangagwa est capable de leur livrer autre chose, c'est-à-dire une démocratisation, une reprise économique, une société plus ouverte, plus plurielle aussi? C'est toute la question. Il y a une opposition au Zimbabwe. Cette opposition avait même gagné les élections il y a une dizaine d'années, et Mugabe s'était arrangé pour truquer le résultat et rester perpétuellement au pouvoir. Le leader de l'opposition, à un moment, est parti en exil. Enfin, il y a une société active et vraiment pluraliste au Zimbabwe, qui n'a jamais eu l'occasion ou la possibilité de s'exprimer.
Un mot, Pierre Aski, sur l'Afrique du Sud. Jacob Zuma a, depuis très longtemps, depuis toujours, appuyé Mugabe. Zuma, qui, on le sait, dans son pays, est aussi très contesté aussi pour ses dépenses faramineuses. Est-ce que cette chute de Mugabe peut avoir un impact sur le grand voisin sud-africain?
Oui, tout à fait. Dans la presse sud-africaine de ce matin, il y a une caricature de Zapiro. Zapiro, c'est un dessinateur qui a la dent très dure en Afrique du Sud, et il montre Zuma derrière une une d'un journal qui annonce le départ de Mugabe, et on voit un Zuma effrayé derrière ce journal. Il est clair que le départ de cette génération, parce qu'il y a une génération qui part, vous avez eu José Eduardo dos Santos, le président de l'Angola, qui a passé la main, lui aussi, après un très long règne, il y a seulement quelques semaines. Aujourd'hui, c'est Mugabe, et vous avez comme ça ces dinosaures de la lutte de libération qui ont été des gens porteurs d'espoir il y a 30 ans, 40 ans, et qui se sont transformés en gestionnaires plus ou moins bons et plus ou moins corrompus et plus ou moins dictatoriaux dans leur pays. Jacob Zuma est très contesté, il y a des dossiers de corruption qui pèsent contre lui, de mauvaise gouvernance, de népotisme, et il y a une échéance très proche, puisque au mois de décembre, l'ANC devrait choisir son ou sa successeur. Et là, je pense que ce qui vient de se passer au Zimbabwe va peser sur les débats politiques en Afrique du Sud. C'est incontestable, il y a une famille politique entre ces dirigeants des mouvements de libération. Ils sont extrêmement liés, ils ont une histoire commune, ils ont traversé des années sombres ensemble. Et aujourd'hui, je ne dis pas que leur sort est lié, parce que chaque pays a une histoire politique différente, mais malgré tout, chaque situation influence les autres.
On a le sentiment, à vous entendre, que c'est vraiment une page de l'histoire africaine, plus que d'ailleurs l'histoire zimbabwéenne qui se tourne. Mugabe jouissait d'un énorme prestige auprès des leaders africains du fait de son statut de héros anticolonial. Est-ce que c'est ce qui explique, c'est ce qui a pu expliquer les relatives discrétions de la communauté africaine, de la SADC, de l'Union africaine, à sanctionner ce régime qui, on l'a vu, a affamé son pays, a été un régime dictatorial? Est-ce qu'aujourd'hui, au sein même des institutions panafricaines, c'est une vraie révolution qui est en train de se mettre à l'œuvre?
C'est vrai qu'il y a eu une véritable complaisance due au passé de cet homme. C'est-à-dire qu'au nom de l'héroïsme de son action pour libérer le Zimbabwe, on a fermé les yeux sur tout ce qui a suivi. Et en particulier, en Afrique du Sud, que ce soit Thabo Mbeki, le prédécesseur de Jacob Zuma, où Jacob Zuma n'ont jamais réussi à trouver le ton juste pour traiter des affaires du Zimbabwe, même lorsqu'il y avait des centaines de milliers de réfugiés qui arrivaient en Afrique du Sud et qui menaçaient même de déstabiliser le pays à certains moments. Et c'est pareil au niveau panafricain. J'entendais hier Sakonde, le président de la Guinée, qui est aujourd'hui le président de l'Union africaine, qui disait « nous n'aurions jamais accepté un coup d'État militaire, etc. » Mais il a accepté pendant 37 ans une dictature dans ce pays en fermant les yeux. Alors, pourquoi pas un coup d'État militaire quand on accepte une dictature aussi féroce? C'est un peu tout le paradoxe de cette non-ingérence de ce club de chefs d'État qu'est souvent l'Union africaine. Et là, effectivement, il s'est passé quelque chose au Zimbabwe qui doit questionner un peu tout le monde en Afrique, c'est-à-dire face à ces régimes qui se perpétuent par des moyens qui ne sont pas constitutionnels, même s'ils respectent certaines formes. Il y a d'autres chefs d'État en Afrique qui ont une longévité assez importante et qui sont contestés ou contestables. Mais l'Afrique ne sait pas encore comment traiter ce problème.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.